Goethe, ses mémoires et sa vie, tome 2, traduit par Henri Richelot. Extrait, page 321. Par suite d'une nouvelle grossesse de la duchesse Louise, qui eut pour résultat un enfant mort, l'hiver de 1785 fut moins animé. Et Goethe put appartenir tout entier à ses travaux. Un des premiers jours de l'année, il écrit qu'il a composé 3 stances. Ce sont des stances de 8 vers chacune pour le poème des mystères. Il s'était imposé l'obligation d'en écrire 2 par jour, et lorsqu'un jour il n'avait pas atteint ce nombre, il le complétait en produisant davantage un autre jour. Les jours où il avait rempli sa tâche étaient rayés par lui sur l'almanach. Des billets de mars et d'avril mentionnent ce travail, mais ensuite il n'en est plus question. Les stances qui ont été publiées sont au nombre de 44. Elles ne composent qu'un beau fragment, comme tant d'autres essais de l'auteur. Lui-même, en 1816, pour satisfaire aux vœux d'une société de jeunes gens qui débattaient des questions littéraires dans une ville du nord de l'Allemagne, a donné des explications sur une œuvre incomplète dont le sens était nécessairement obscur. Elles vont être ici reproduites. Je dois supposer que la pièce de vers est connue du lecteur. Cependant, je vais en dire quelques mots. On se rappelle qu'un jeune religieux, égaré dans une contrée montueuse, finit par rencontrer dans une agréable vallée un superbe édifice, demeure d'hommes pieux qui s'entoure de mystères. Il y trouve 12 chevaliers qui, après une vie agitée, ont pris l'engagement d'habiter ce séjour et d'y servir Dieu en silence. Un 13e qu'ils reconnaissent pour leur chef est sur le point de les quitter. Comment, on l'ignore. Mais dans les derniers jours, il a commencé le récit de sa carrière. Le nouvel arrivant, bien accueilli, est renseigné brièvement à ce sujet. Une mystérieuse apparition nocturne de jeunes gens en habit de fête, dont les flambeaux éclairent le jardin dans leur marche rapide, termine le fragment. Pour faire connaître le plan général et l'objet du poème, je déclarerai que le lecteur devait être conduit par une sorte de Montserrat idéal. Entre parenthèses, Montserrat est une montagne voisine de Barcelone où est située une abbaye célèbre avec de nombreux ermitages et où affluent les pèlerins. Et après avoir parcouru les différentes parties de la montagne, les rochers et les escarpements devaient arriver à de vastes et douces plaines. On devait visiter chacun des moines chevaliers dans sa demeure et apprendre que les hommes les plus excellents de tous les points du globe s'étaient rassemblés en ce lieu pour rendre, chacun à sa manière, ses hommages secrets à Dieu. Le lecteur ou l'auditeur voyageant avec le frère Marc aurait vu les manières les plus différentes de penser et de sentir que le climat, la nature du pays, la nationalité, le besoin, l'habitude développe ou imprime chez les hommes, représentés dans ce lieu par des individus éminents et exprimant avec dignité par la vie en commun le désir d'une éducation plus élevée, bien que toujours incomplète. Dans ce but, ils se sont réunis autour d'un homme dont le nom est Humanus. Ils ne s'y seraient pas décidés sans éprouver tous une affinité, un attrait vers lui. Cet intermédiaire va les quitter à l'improviste et ils apprennent avec autant d'étonnement que d'édification l'histoire de sa vie passée. Il n'est pas seul à la raconter, mais chacun des 12 avec lesquels il a été en contact est à même de donner des informations sur cette grande vie. Il en serait ressorti que chaque religion atteint son plus haut degré d'éclat et de fécondité quand elle se rapproche de ce chef, de cet intermédiaire dont on vient de parler, quand elle s'unit à lui étroitement. Ces époques étaient personnifiées dans les 12 représentants, de sorte qu'on aurait trouvé digne de respect et d'amour tout culte de Dieu et de la vertu, même sous une forme étrange. Après une longue vie en commun, Humanus se séparait de ses compagnons. Parce que son esprit ayant pénétré chez eux et vivant en eux, n'avait plus besoin d'une enveloppe terrestre. L'auditeur, transporté en esprit dans tous les pays et dans tous les temps, constatait partout les heureux effets de l'amour de Dieu et des hommes sous tant de formes diverses. Et la plus agréable impression était produite parce qu'il n'avait été question ni des écarts ni des abus qui, à certaines époques, avaient rendu la religion haïssable. Toute cette scène se passe dans la Semaine Sainte, et le signe distinctif de cette société est une croix entourée de roses. On doit donc prévoir aisément que l'éternelle durée d'une haute condition humaine, scellée par le jour de Pâques, allait être encore heureusement déclarée lors du départ d'Humanus. Afin qu'une si noble association ne manquât pas de chef et de lien, par un singulier arrangement de la Providence, le pauvre pèlerin, le frère Marc, était appelé à ce poste éminent. Sans une vaste intelligence, sans l'aspiration vers ce qui ne peut être atteint, par l'humanité, par le dévouement, par une loyale activité dans sa sphère, il avait mérité de présider une société bienfaisante tant qu'elle séjournerait sur cette terre. Si ce poème avait paru il y a 30 ans, achevé comme il avait été conçu et commencé, il aurait devancé son époque. Actuellement, bien que depuis lors les idées se soient élargies et les sentiments épurés, on aurait vu peut-être avec plaisir, sous un vêtement poétique, des vérités généralement reconnues, et l'on se serait affermi dans des sentiments où l'homme, sur son propre Montserrat, peut seulement trouver le bonheur et le repos.